Bonjour la Méditerranée, bienvenue comme chaque semaine dans Cantara, le magazine d'actualité des deux rives de notre Méditerranée. Au micro, Thomas Brunet, lead de France Bleu RCFM à Ajaccio, en Corse, et en direct de la capitale égyptienne, Dina Abdelmegid de Radio Le Caire. Bonjour Dina.
Bonjour Thomas, bonjour la Méditerranée, bonjour à tous les Cantariens.
Alors Dina, tu nous présentes le sommaire de ce nouveau numéro de Cantara.
Le 21 avril s'est tenu à Madrid le Forum mondial sur la violence urbaine. Des élus et maires de municipalités du monde entier s'étaient donné rendez-vous. Vous entendrez le bourgmestre de Bruxelles, dont la ville a subi plusieurs attaques djihadistes radicaux. Le chef de gouvernement marocain Saadedine El Othmani a présenté son programme. Parmi ses priorités, la lutte contre les disparités sociales, l'éducation ou la formation des jeunes. En 2014, la nouvelle constitution égyptienne avait révisé les articles ayant trait au droit de la presse. 3 ans après, 3 organismes indépendants sont créés. Ils auront en charge la gestion du paysage médiatique. Quel impact auront-ils sur la liberté d'expression ? Vous entendrez les réactions de 2 journalistes.
Il est des pays où l'on vit vieux. Parmi ceux-ci, le Japon, le Costa Rica, Icaria, une île grecque, ou la Sardaigne. Quelles sont les raisons qui conduisent à cette longévité de la vie ? Pierre-Louis Alessandri a enquêté. La Tunisie pourrait miser sur le tourisme vert. Tarek Nefsi, opérateur en tourisme écologique, nous présente les atouts et les faiblesses de la Tunisie dans ce domaine.
Cantara est le fruit d'une large coopération avec Algégène 3, Linda Boadma, France Bleu, RCFM, Pierre-Marie, Thomas Brunelli et Pierre-Louis Alessandri, chaîne Interaba, Nadir Abelkhoutout et Mohamed Choui, Radio Tunis, chaîne internationale Maya Dassili, Radio Le Caire, Dina Abdelmegid, Radio Extérieure d'Espagne, Iman Mouenzar.
Et notre première chanson est espagnole, a été choisie par Iman Mouenzar. Iman qui nous propose El Canca, qui continue sa carrière en solitaire. Alors on propose de le retrouver dans Pudo Pasar. Il a pu se passer que le destin frappe à ta porte. Mais tu portais des écouteurs, ça c'est bien, El Canca, on l'écoute.
Cuando el destino llamó a tu puerta, tenías puestos los auriculares. Cuando el destino llamó a tu puerta, tenías puestos los auriculares. Pudo pasar, pero no lo escuchaste. Pudo pasar, pero no lo escuchaste. Mírame. Cuando te hablo estoy a tu lado, no me apuntes al corazón con el teclado. El campo no tiene puertas ni tiene vallas, la musa calla si le raya tu pantalla. Atento, ojo al mundo que te lo estás perdiendo y lo ves a través de tu ojo de pez. El paisaje es de vida, no de papel, apaga eso y simplemente quédate. Cuando el destino llamó a tu puerta, tenías puestos los auriculares. Cuando el destino llamó a tu puerta, tenías puestos los auriculares. Pudo pasar, pero no lo escuchaste. Pudo pasar, pero no lo escuchaste. Te veo sobrealimentando el falso deseo, rezando y adorando a tu dios ateo. Tu diosa hermosa, pero vacía, y encima se le acaba la batería. Prefiero tocar el suelo con mis 2 manos. Prefiero mirar por dentro de mis hermanos y mis enemigos. Conmigo ven, sin enchufe concebido, amén. Cuando el destino llamó a tu puerta, tenías puestos los auriculares. Cuando el destino llamó a tu puerta, tenías puestos los auriculares. Pudo pasar, pero no lo escuchaste. Pudo pasar, pero no lo escuchaste.
Hola, aquí el Canca al aparato. Llevo pegado a ti demasiado rato, buscando el amor en tu piel volátil y escribiendo esta canción en el portátil.
Busca, no hay un mensaje de despedida escrito en el viento, que te vaya bien vida. Levantando la vista he vuelto a mirar. Pulsemos sin miedo el botón de apagar. Cuando el destino llamó a tu puerta, tenías puestos los auriculares. Cuando el destino llamó a tu puerta, tenías puestos los auriculares. Pudo pasar, pero no lo escuchaste. Pudo pasar, pero no lo escuchaste.
C'était El Canca, et on reste en Espagne avec le sujet que nous a concocté Iman Mouenzar.
Madrid a accueilli le 21 avril le Forum mondial sur la violence urbaine. Des élus et des maires de municipalités du monde entier s'y étaient donné rendez-vous. Et nombre de ces participants ont profité de la rencontre pour traiter de ce phénomène récent d'attentats indiscriminés liés au radicalisme religieux. Le bourgmestre de Bruxelles, Yvan Majeur, dont la ville Brésil a subi plusieurs attaques, nous en parle et nous fait part de ta préoccupation face au retour de djihadistes du Moyen-Orient. Immanuel.
Monsieur Ivan Mayer, Bruxelles est perçue comme un important point de chute de nombreux djihadistes de retour.
Mais non, parce que la situation est plus grave dans des pays comme la Tunisie, comme où on parle de milliers de personnes qui sont parties. J'ai le maire de Tunis qui a aussi subi un attentat à Tunis. Lui, il craint le retour de milliers de personnes, 2000 personnes, 3000 personnes peut-être qui sont parties en Syrie. C'est vrai qu'à Bruxelles, en Belgique, il y a aussi beaucoup de gens qui sont partis en Syrie. Et notre crainte, c'est de les voir revenir. Et dans quel état d'esprit vont-ils revenir ? Est-ce qu'ils ne reviendront pas indemnes, y compris psychologiquement ou psychiatriquement, d'avoir mené une guerre là-bas, avec les atrocités de cette guerre ? Ont-ils commis des actes criminels qui doivent être jugés ? C'est d'abord à la justice de le décider. Et ensuite, peut-on accepter que quelqu'un, après avoir été mené sa guerre, vienne se réinstaller dans un quartier comme s'il revenait de vacances ? Non. Il faut donc que la société se prépare par rapport à ce retour des combattants de Syrie. Et je pense que c'est une question fondamentale pour l'Europe, pas seulement pour Bruxelles, mais pour toute l'Europe, parce que c'est peut-être là qu'on trouvera des gens qui voudront continuer leur guerre, mais cette fois sur le territoire européen.
À la justice, ce qui revient à la justice, mais comment doivent se préparer les villes, les municipalités ?
Notre travail au niveau des villes, il est plutôt vers notre population et permettre qu'on puisse vivre dans des villes. Vous savez, à Bruxelles, il y a 160 nationalités différentes qui cohabitent. Chacun doit pouvoir s'exprimer, exprimer son point de vue, même se confronter à la société belge et européenne, mais en étant respecté et en respectant aussi les autres. Je pense que le travail que nous devons faire au niveau des villes, c'est un travail de dialogue, d'écoute, de respect mutuel et de dire que chacun a sa place, pourvu qu'il respecte la place de l'autre. Et ça, nous pouvons le faire par le biais de l'éducation. Nous avons beaucoup d'écoles et c'est là que nous devons faire le premier travail. Mais nous devons aussi montrer que nous prenons soin de notre population, quelle que soit son origine. Tout le monde doit avoir les mêmes droits sociaux, les mêmes droits à l'éducation, les mêmes droits à la santé.
Pourquoi des jeunes nés à Bruxelles ou à Paris ou à Madrid ne se sentent pas bruxellois, parisiens ou madrilènes ?
C'est la vraie question. Je pense que les causes du terrorisme ne sont pas recherchées dans les conditions sociales, ne sont pas recherchées dans les conditions économiques. Peut-être qu'elles sont à rechercher dans le manque d'identité de ces jeunes qui sont perdus, qui ne savent pas au fond qui ils sont. Ils ont des parents ou des grands-parents dont l'origine est maghrébine notamment, mais eux sont nés ici, ils ont grandi ici, ils ont la nationalité belge et ils ne se sentent pas belges. Mais ils savent aussi qu'ils ne sont plus de la nationalité de leurs parents. Et donc ils sont en quête, en recherche de leur identité propre. Et certains se sont projetés dans une guerre sainte en disant « ben là, je vais trouver mon identité, je vais être un combattant ». Nous avons, à la ville de Bruxelles, nous travaillons sur l'octroi d'une identité de Bruxellois, qui est une identité pour l'avenir, et l'identité d'une ville qui est aujourd'hui une ville-monde. Nous sommes la capitale de l'Europe. C'est formidable comme identité pour le jeune qui veut s'en saisir. Le jeune, partout dans le monde, il pourra dire « D'où viens-tu ? Je viens de Bruxelles ». Ben, Bruxelles est connue partout dans le monde aujourd'hui parce que c'est la capitale des institutions européennes. C'est un passeport formidable. Il doit pouvoir servir de tremplin pour l'avenir pour les jeunes. Et cette identité-là, on peut l'octroyer à celui qui veut. Et celui qui est en quête d'identité peut s'octroyer lui-même cette identité-là de Bruxellois. C'est ce que nous plaidons, c'est ce que nous disons. aux jeunes des 160 nationalités différentes qui vivent à Bruxelles.
Voilà l'interview très intéressante du bourgmestre de Bruxelles, Yvan Majeur, qui veut créer cette identité de bruxellois. Et c'est vrai que cet angle n'a pas été assez développé. Ces jeunes qui partent pour le djihad au Moyen-Orient, en Syrie notamment, sont des jeunes qui sont en manque d'identité. Ils ne sont plus de leur pays d'origine. Ils ne sont pas tout à fait français, belges ou anglais ou allemands. Ils sont entre les deux. Et c'est vrai, de créer cette identité de bruxellois, c'est peut-être une des solutions, Dina.
Mais je trouve que ce problème d'identité, c'est partout. C'est-à-dire tous les djihadistes qui partent vraiment ou qui sont impliqués, ce sont des gens qui ont perdu l'espoir de vivre. Ils ne veulent plus vivre, ils ne se trouvent pas, peut-être ils ne trouvent pas le plaisir de vivre. C'est pour cela qu'ils ont choisi de se suicider, quoi.
Mais en plus, l'identité, c'est quand même quelque chose de fondamental. Et lorsque l'on voit, je parle de la Corse notamment, qui se bat pour garder son identité, sa langue, sa culture. Bon, c'est un combat qui dure depuis maintenant 30 ans. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne l'État français, le gouvernement français, quel qu'il soit, hein, il y a toujours eu des réticences à ouvrir un peu et à reconnaître ce peuple corse. Mais c'est vrai que c'est important de savoir d'où l'on vient. Ça permet aussi de savoir aussi où l'on va. Et là, on a un peu ces jeunes qui sont en déshérence et qui versent comme ça dans la violence, dans le terrorisme. Et c'est vrai que maintenant, on parlait de ces 160 communautés qui vivent à Bruxelles, qui cohabitent. Je crois que c'est merveilleux d'avoir une ville avec tout ce mélange, hein, cette richesse. Et c'est dommage de voir tous ces jeunes qui partent à la guerre. Allez, après ce sujet que nous a concocté Emmanuel Winzard, on va partir au Maroc. Mais d'abord, on va écouter une chanson que nous a choisie Nadira Belrotout.
C'est Badr Soltan, un jeune artiste qui s'inspire de l'argot marocain. Sa chanson « Zéro LH20 ».
Vous écoutez Kantara, le magazine de la Méditerranée.
عمرك شديت الخط ديما ما شاء الجنان
عمرك شديت الخط ديما ما شاء الجنان
ورجعتي كتغلط بلا سبب مع الحباب ورجعتي كتغلط بلا سبب مع الحباب بحالك ما يطلعنيش
بحالك ما يطلعنيش
بيناتنا مسافات تجري ما توصلنيش بيناتنا مسافات تجري ما توصلنيش
حساب خاوي جاتك زيرو على عشرة قولي اشنو ناوي لا تبغي تدخل العشرة
حساب خاوي جاتك زيرو على عشرة قولي اشنو ناوي لا تبغي تدخل العشرة.
Au Maroc, on y est en chanson, on y reste, et le chef du gouvernement, Saadin Al-Othmani, a présenté son programme 2017, un programme qui sera présenté devant les deux chambres pour approbation. Les priorités de ce plan gouvernemental, la lutte contre les disparités sociales, l'éducation, la formation des jeunes. Yasmine Moutayeb, qui est membre de l'Institut Prometheus, une ONG défenseur des droits de l'homme et des droits des jeunes, ne critique pas le programme, mais avance un certain nombre de remarques au micro de Nadira Belrotout.
Yasmine Moutayeb, tu es membre de l'Institut Prometheus, un institut des droits de l'homme qui travaille sur toutes les questions qui concernent les jeunes et la jeunesse. Avant de parler de la déclaration gouvernementale concernant le programme du gouvernement, quelles sont les activités de l'Institut Prometheus ?
C'est un institut qui est indépendant des partis politiques et des syndicats, qui a été créé en 2013. Et qui justement était le fruit de plusieurs discussions de jeunes, que ce soit des jeunes qui ont participé à la mouvance contestataire en 2011 ou des jeunes qui s'intéressent justement au travail associatif et plus sur le volet jeunesse et droits de l'homme. Et donc on a choisi dans l'Institut Prometheus de travailler sur des axes principaux, à savoir l'éducation, les médias, l'art et la culture, mais aussi le suivi et évaluation des politiques publiques. Et donc, jusqu'à présent, nous avons mené plusieurs projets dans ce sens, que ce soit à travers le plaidoyer avec les acteurs politiques au Maroc, ou que ce soit à travers le travail sur les mécanismes onusiens des droits de l'homme, et notamment le mécanisme de l'examen périodique universel, puisque pour la première fois, il y a un institut de jeunes au Maroc qui a fait justement le suivi des recommandations qui ont été adressées au Maroc en 2012, pour voir justement où est-ce qu'on en est à ce niveau-là. Et par la suite, on a fait le rapport parallèle. Et donc c'était, je dirais, deux expériences riches dans le parcours de l'institut. Par ailleurs, il a justement fait plusieurs actions de travail à proximité, que ce soit à travers ses universités d'été, ses universités de coopération avec les étudiants canadiens, ou carrément ses ateliers de travail de proximité, ses ateliers d'éducation populaire.
Votre institut soumet régulièrement ses rapports au gouvernement concernant les droits de l'homme, la situation des jeunes, et dans la déclaration du gouvernement, le chef du gouvernement, Saad Dila Othmani, a évoqué deux points concernant les jeunes, qui sont l'éducation et la formation et la lutte contre les disparités. Votre commentaire sur ces deux volets?
L'éducation dans ce programme gouvernemental, personnellement, je pense que ce programme gouvernemental a été un énoncé de bonnes intentions, et donc on peut pas le critiquer, mais en termes de mesures ou de mécanismes qui ont été évoqués, donc je pense que à ce niveau-là, il y a une petite carence dans le programme gouvernemental, dans la mesure où nous, on a proposé dès le départ de faire de la réforme de l'éducation une priorité, non seulement en se contentant de réviser les programmes, mais également en adoptant une politique éducative basée sur la gratuité de l'éducation, sans discrimination entre les jeunes, en prenant en compte plusieurs mécanismes, à savoir la généralisation des bourses, l'élargissement de l'accès aux campus universitaires et aux bibliothèques des facultés et écoles d'enseignement supérieur, l'augmentation du budget de la recherche scientifique, trouver par exemple des solutions au phénomène de la violence universitaire, améliorer la qualité des contenus pédagogiques en travaillant sur les programmes avec des approches qui justement contribuent au développement de l'esprit d'innovation et d'initiative chez les jeunes. Pour ce qui est de la lutte contre les disparités sociales, donc je pense que c'est un petit peu lié aussi aux grandes décisions qui ont été prises. On peut citer également le fait de décompenser les produits tels que le sucre, la farine ou aussi le butane, et donc justement pour pouvoir mieux cibler les aides.
Le nouveau programme gouvernemental marocain qui laisse une place pour les jeunes, pour l'éducation. C'est vrai qu'il n'est pas trop critiqué par cette représentante du ONG, mais quand même, il y a des carences, notamment concernant la gratuité de l'éducation et mieux aider aussi les jeunes et les familles. Je crois que c'est des priorités qu'ont relevé les gens sur le terrain au Maroc.
Mais en fait, c'est bien qu'ils ont compensé par les jeunes, puisque le problème de disparité sociale et l'éducation et les formations, ça date depuis longtemps. Donc, il faut commencer par les jeunes, c'est eux qui vont demander leurs droits.
Alors, il y a eu pendant la campagne électorale de l'élection présidentielle en France des projets qui étaient avancés, et notamment, ça va pas être retenu, mais c'était un projet qui était intéressant, c'était de redonner des uniformes aux écoliers, comme avant il y avait les tabliers, ou dans les écoles anglaises où il y a des costumes avec cravate, etc., mais sans aller jusque-là. Est-ce qu'en Égypte, les écoliers, les collégiens, sont habillés tous pareils ou pas du tout?
On garde toujours l'uniforme, toujours, même dans les écoles internationales qui, soi-disant, ne pratiquent pas cet uniforme, mais on a gardé à la demande des parents, on garde l'uniforme. C'est juste pour que les parents ne se cassent pas la tête le matin, pour que les enfants traînent à s'habiller, surtout les ados. On a gardé ça. Et dans les écoles gouvernementales, on leur offre l'uniforme.
Et comme ça, c'est bien parce que tous les enfants sont égaux. Enfin, parce que ici, on voit une escalade dans les tenues. Il y a des enfants qui sont habillés avec peut-être 1 000 ou 1 500 euros sur eux et d'autres qui sont même le dixième. Donc, bon, c'est peut-être une idée à suivre. En tout cas, donc, elle est appliquée en Égypte. En Égypte, on va y rester car tu nous as choisi une chanson, Dina.
J'ai choisi la chanson Younes. Younes, en fait, c'est Jonas. C'est un prénom et interprété par Mohamed Mounir, le king, le roi de la chanson égyptienne.
جاي من بلاد البعيد لا زد ولا ميا وغربتي صاحبتي بتحوم حوالي وانت تقولي لي بحبك تحب ايه فيا وده حب ايه ده اللي من غير اي حرية يونس في بلاد الشوق
En Égypte, on y reste avec bien la nouvelle constitution qui se met tout doucement en place et avec une création importante, Dina.
Oui, en fait, en 2014, on avait voté la nouvelle constitution qui prévoyait des amendements et des changements dans plusieurs domaines, et, y compris le domaine de la presse. Et voilà, aujourd'hui, après 3 ans d'attente, 3 nouveaux organismes indépendants voient le jour. Ils sont désormais en charge de gérer l'ensemble du paysage médiatique, mais quels sont ces organismes et quel impact auront-ils sur la liberté d'expression? Réponse avec Chérif Soliman, directeur de la rédaction et chef du desk à l'Ehram Hebdo, et l'écrivain journaliste au Progrès égyptien, Dr Nesrin Chokri.
Ces organismes sont le Conseil suprême des médias, l'organisme national de la presse et l'organisme national des médias audiovisuels. Composé de 13 membres, le Conseil suprême des médias est chargé de gérer les 2 organismes de la presse et des médias. Composé chacun de 13 membres également, les membres de ces organismes ont été recrutés parmi les candidats proposés par plusieurs syndicats et instances, dont le syndicat des journalistes, celui des médias audiovisuels, la faculté de communication et le Conseil d'État. Ce système de recrutement renferme donc de façon indépendante des professionnels expérimentés. Ces 3 nouvelles autorités viennent remplacer en fait le ministère de l'Information et le Conseil consultatif, 2 organes étatiques qui géraient jusqu'à la révolution de 2011 les médias et la presse et qui ont été abolis en 2012. En décembre dernier, le Parlement avait approuvé une loi sur la création de nouveaux organismes gérant les médias audiovisuels et la presse écrite officielle en fait. Cette décision fait donc suite à l'article 211 de la Constitution de 2014 qui stipule que de nouvelles instances pour la gestion et la supervision des médias et de la presse officielle doivent être créées. La création de ces organismes répond donc à une exigence constitutionnelle. Il ne s'agit aucunement d'une instance exécutive qui va intervenir directement dans la gestion des organes de presse ou des médias, mais d'une instance dont le rôle sera de superviser de manière générale le travail de ces institutions. Alors le rôle de ces organismes sera de donner un point de vue sur les projets de loi qui concernent la presse et les médias, de recevoir les demandes de création de nouveaux journaux ou de nouveaux médias, comme les chaînes par exemple, chaînes satellites ou autres, de mettre en œuvre les critères nécessaires au code de déontologie et de mettre aussi en place les critères qui sont liés à l'exercice du métier.
L'organisme national de la presse vient d'être créé. Il doit d'abord améliorer et assainir le domaine de la presse et permettre aux maisons de presse nationales de améliorer leur travail et d'avoir des outils pour concurrencer sur une scène où la concurrence est difficile. Et pour ce faire, bien sûr, ça ne va pas être facile puisqu'il doit faire beaucoup de choses Entre autres, il doit restructurer, comme il l'a déjà annoncé, les maisons de presse, sauf que le plan jusqu'à présent n'a pas été annoncé avec beaucoup de détails. Et il doit aussi transformer certains journaux en journaux électroniques, c'est-à-dire qu'ils sont en ligne et plus en papier. Jusqu'à présent, les PDG des maisons de presse et les rédacteurs en chef n'ont pas encore été choisis. Donc, il est prévu que peut-être il y aura des changements. On verra des figures jeunes à la tête des maisons de presse. Pour la première fois, il devrait présenter un plan pour moderniser les maisons de presse. De même pour les rédacteurs en chef. On prévoit de voir des jeunes au poste, des jeunes surtout, comment dire, compétents et capables d'apporter une nouvelle vie à la presse nationale. Donc, on attend. Pour le moment, on verra ce que cela va donner.
Concernant la liberté de la presse et ce que certains ont dit que ces instances nouvellement créées pourraient entraver la liberté de la presse, eh bien non, absolument pas. Au contraire, ces trois instances vont donc donner plus de liberté, plus d'indépendance aux médias, qu'ils soient écrits ou audiovisuels, puisqu'il s'agit essentiellement de organismes indépendants et qui sont formés de manière indépendante. Donc cela devrait garantir plus de liberté à la presse et aux médias. Et soulignons aussi la création du syndicat des médias audiovisuels. C'est la première fois qu'il y a un syndicat des médias audiovisuels en Égypte. Ce syndicat va donc donner une certaine couverture, une certaine protection professionnelle aux journalistes qui travaillent dans les médias audiovisuels.
Voilà donc cette interview croisée que tu as réalisée, Dina, avec un patron de presse, en tout cas un directeur de rédaction et une journaliste. Alors la question que l'on se pose, c'est vrai, lorsqu'on voit des instituts, même indépendants, contrôler, superviser la presse, on se pose toujours la question, c'est toujours la même, est-ce que la presse va être sous contrôle? Est-ce que ça va réduire les libertés? Alors selon tes intervenants, non, pas du tout. Au contraire, ça va donner plus de liberté à la presse. Toi, qu'en penses-tu?
Moi, je pense que oui, ça va donner de la liberté de la presse, mais je trouve aussi que ça sera un peu régulé. On attend de voir, bien sûr, mais ce qui est très important pour nous maintenant, c'est le syndicat. Voilà, c'est la création du syndicat de l'audiovisuel qui n'était pas depuis plus de 40 ans. On luttait pour cette création de cette entité qui défend les intérêts, les droits des journalistes, des médias audiovisuels. On n'en avait pas et ils sont restés pendant des décennies les seuls à travailler sans qu'une entité le représente. Donc enfin, voilà, nous avons ce syndicat qui peut peut-être nous protéger s'il y a quoi qui arrive avec ces organismes-là.
C'est vrai, donc il faut le souligner, hein, la création du premier syndicat de journalistes audiovisuels, ça c'est un événement donc, en Égypte et peut-être un pas pour un peu plus de liberté, en tout cas un peu plus de défense hein, de notre profession. C'est une profession difficile à exercer, mais ça avec un syndicat, elle sera beaucoup mieux protégée. Alors maintenant, une exclusivité. On va vous faire écouter une chanson qui s'intitule « Terre », qui est une exclusivité de notre radio de RCFM, qui est interprétée en Corse et en arabe par le chanteur Feli pour la Corse et Lukman qui fait fonction d'iman sur la plaine orientale de la Corse. Alors, cette chanson a été enregistrée en live dans nos studios pour l'émission Incanto que anime et prépare Christophe Zagaglia. L'idée de ce duo est née lors d'une journée autour de la fraternité qui a eu lieu à Prunay-lès-Divy-Mourgues, toujours dans la plaine orientale. Une chanson qui pourrait faire objet d'une sortie en single et qui est un peu le symbole de Kantara. On écoute cette chanson.
يبدو شيئا ما ملتويا أنقاد وزمانت ألقيت بذرة للريح تضري ديانت تحمل على الضحك شزنا دي بيار نبتت بها أزهار بنفس الألوان كالذي دي مدمة كالتي في بلدي عند الريد السبب لماذا إذا كنت مقوي كومي كوالا أنوستر دار أنوستر دار كنت مقوي come qua là fin cobueremu cantare.
شوامخ القمم تابي ولا تجيم دبقالي ومنتجينتو دبقالي منتجينتو تجري الريح مزركشة وانتو قاردينتو ألف لحن ولحن ديجانتو ميلا ريم ترسل أغانيها للأسد وللأيل في شعر مرتجل يحكون عالما غني هنا كما هناك أرادينا أرادينا نغني هنا كما هناك كل ما يحلول غنى È nostro dare, è nostro dare. Cantiamo qui come quella, finché potremo cantare. Kullama yahlul.
Voilà, c'était une exclusivité RCFM Kantara avec cette chanson interprétée par le chanteur corse Feli, qui chante en Corse, et Loukman, qui est l'imam de la plaine orientale, toujours en Corse. Donc on chantait en français et en arabe. C'est un peu le symbole de Kantara, ça, Dandina.
Oui, c'est très très joli. Vraiment, c'est une belle chanson. Mais j'ai dû, au début, je n'ai pas compris, est-ce que c'est de la Corse, c'est de l'arabe, c'est quoi ça? Mais voilà, je me suis rendu compte, c'est très très beau, c'est vraiment.
C'est vrai, donc on va dire merci à Christophe Zagal qui anime ces émissions et qui nous a offert cette chanson. Allez, maintenant on va parler d'un sujet qui est important, parce qu'il y a des pays où il fait bon vivre et surtout où l'on vit vieux. Parmi ces pays se trouve une partie du Japon, du Costa Rica, Icaria, qui est une île grecque, et bien sûr la Sardaigne, on va en parler beaucoup. Alors quelles sont les raisons qui conduisent à la longévité de la vie dans ces régions par rapport à d'autres lieux? C'est la question que se sont posées des chercheurs de l'université de Sassari en Sardaigne et en Corse. Et dans cette ville d'Italie, à Sassari, ou en tout cas dans la région, on vit beaucoup plus vieux qu'ailleurs. Écoutez Pierre-Louis Alessandri.
On vit plus vieux en Italie qu'en France. Et on vit plus vieux en France qu'en Espagne. Mais un des endroits du monde où le nombre de centenaires est plus important qu'ailleurs, c'est l'île de Sardaigne. C'est pourquoi depuis 20 ans, des chercheurs de l'université de Sassari, la deuxième ville de Sardaigne, étudient ce phénomène. Ils ont créé un observatoire de la longévité et sont venus en Corse pour associer son université à ce travail. Le premier à travailler sur ce phénomène a été le professeur Mario Pes, épidémiologiste. Il a délimité des zones bleues afin de recueillir des données en Sardaigne et maintenant des comparaisons avec la Corse.
Il y a une vingtaine d'années, j'étudiais la mortalité en Sardaigne et j'avais fait l'hypothèse que où la mortalité était faible, il y avait beaucoup de centenaires. Alors je commençais à faire la carte de toutes les centenaires sardes. À cette époque-là, je n'avais pas d'ordinateur, j'avais tout simplement un stylo bleu. Alors je marquais la carte de Sardaigne avec mon stylo et à la fin d'une année de travail, j'avais une tache bleue et alors je décidais d'utiliser les mots zone bleue la première fois que j'ai écrit un article scientifique sur le sujet. On dispose déjà d'au moins 6 villages au lieu de 1 qui avait été étudié il y a longtemps. Et alors la population c'est plus large et on peut vraiment maintenant la comparer avec une autre population de référence. Pourquoi la Corse? Parce que les deux populations sont des populations isolées. Alors je crois que vraiment dans les composantes de la longévité, il y a l'isolement. L'isolement géographique, à déterminer probablement une meilleure préservation des facteurs traditionnels, ça veut dire la culture sarde est beaucoup mieux préservée que la culture dans d'autres régions d'Italie. Et je crois que pour la Corse, on peut faire plus ou moins le même le raisonnement.
Le professeur Stefanopoulos, anthropologue, et lui aussi chercheur de l'université de Sassari, estime que la génétique n'explique pas tout dans la longévité humaine. Il y a aussi les modes de vie et l'environnement. C'est ce qu'il a observé en Haute-Sardaigne.
L'aspect génétique ne correspond qu'à 25% de la recherche. Les 75% autres résident notamment dans l'anthropologie, dans des facteurs que j'ai classés en trois catégories. Les primordiaux qui correspondent à l'environnement et qui donc vous donnent les limites de vos règles de vie par rapport aux matériaux qui vous entourent, quelle eau y a-t-il sur place, la végétation, le climat, l'air. La deuxième chose, donc, vous avez là un mode de vie. Avec les matériaux que lui offre la nature pour bâtir et donc va créer un certain type de construction, qui sont généralement à 90% jusqu'à il y a 100 ans circulaires. Et puis ensuite, à la naissance des villages, à maison quadrangulaire, ils vont transporter avec eux cette mémoire pastorale et agropastorale qui correspond à certains plans d'occupation de l'espace qui sont donc autour du feu, autour du foyer. Mais l'anthropologie, c'est aussi celle, par exemple, de la foi, qui aide beaucoup des croyances en général, qu'elles soient religieuses ou païennes, qui font partie de la vie intégrale des Sardes encore aujourd'hui, et surtout l'aspect familial.
Mais une des constatations les plus significatives est celle du mode d'alimentation, et les observations du professeur Pes sont significatives.
La plupart de ces personnes âgées mangent, on a toujours respecté le régime traditionnel, ça veut dire basé sur le pain, sur le fromage, parce qu'il était souvent berger, et aussi un verre de vin, parce que ça fait partie de la tradition méditerranéenne, bien sûr. Pour le pain, il faut dire une chose très importante, qu'il y a 20 ans, on utilisait pour la préparation de ce pain la levure traditionnelle qui était basée sur le lactobacilli, ça veut dire le bactère. Maintenant, on a changé. Et on a montré que ce type de pain est capable de baisser les taux de sucre dans le sang. Alors, c'est pour le moment la seule nourriture qui a une effet sur la santé. Il ne faut pas seulement dire que c'est qu'on mangeait les centenaires, mais il faut montrer que ce type de nourriture est vraiment favorable à la santé. Et pour le moment, on peut le dire seulement pour le pain, parce qu'on a fait cette étude, qu'on a été publiée. Bien sûr, on a montré aussi qu'il est capable de réduire le taux d'insuline, qui est l'hormone produite par le pancréas. Alors potentiellement, il serait capable de prévenir la diabète et d'autres maladies métaboliques. Mais on est en train de faire des études supplémentaires pour être sûr que cette affirmation est vraie.
Aujourd'hui, l'alimentation est un marqueur important du bien-être et de la longévité, on le voit, mais surtout une alimentation qui s'inscrit dans une sorte de culture traditionnelle.
Alors, est-ce qu'on fait partie de la zone bleue, ma chère Dina? Est-ce que dans une zone où on vit vieux?
Mais vous avez de la chance! Vous avez de la chance!
C'est juste à côté, la Sardaigne. On va tous aller vivre en Sardaigne, hein, Dina, je crois.
Oui. C'est vrai que la première chose qu'on cherche chez les centenaires, c'est ce qu'ils mangent. Et on croit toujours que le secret de la longévité réside en l'alimentation. Or, il y a aussi le mode de vie et le lieu, vivre dans la nature ou dans la vie primitive. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Thomas?
Je pense que c'est un peu plus compliqué de vivre dans les embouteillages et dans les fumées du Caire.
Mais oui, on va venir tous chez toi. D'accord.
On va créer une communauté cantarienne un peu en Sardaigne, dans ce pays magnifique aussi. Allez, après ce reportage signé Pierre-Louis Alessandre, on va écouter une chanson tunisienne, Dina.
Oui, voilà, c'est Maya Dassili qui nous propose cette semaine une chanson interprétée par Selim Haf de Tunisie, Karim Kamel de l'Égypte, Dani Dimitrovska de Macédoine, et elle a pour titre Never Give Up.
Vous écoutez Kantara, le magazine de la Méditerranée.
عشاء وسألتها ليه البكاء ردت وقالت نفسي عيش أكبر واروح المدرسة قلت لها لازم تبقي جامدة تقولي لأ وتكملي استحملي هو الجواز بيع وشروة بلا وشبكة ردت بلا ده مستقبلي
بس كان الفرحة في الأخبار لا دمومات ولا كرتوش لا حروبات لا استعمار رافيك تجري في الكياس تبيع في النوار والناس تتعدى بلاش أحساس وانتي تدق على البلار اليوم نهار سخون فلو ياسمين في يدو ثبالو من غير ما نحكي عالوضعية العالم الكل في بالو برجة جمالية خيرية من الزوالي شوفوا حوالو نحب نوجه التحية لأي مواطن من نمثالو
Cette chanson avec la Tunisie, l'Égypte et la Macédoine qui nous a été choisie par Maya Dassili. Et on reste en Tunisie avec un sujet qui va nous emmener à l'air pur, Dina.
Oui, comme tous les pays de la Méditerranée, la Tunisie est un pays qui regorge des sites naturels et d'endroits et circuits aménagés et destinés à accueillir les touristes. Possède-t-elle tous les atouts pour devenir une destination privilégiée pour les passionnés du tourisme vert ? Tarek Nefsi, écologiste et opérateur en tourisme écologique, en communication écologique et en éducation environnementale, présente les atouts et les faiblesses de la Tunisie dans ce domaine au micro de Maya Dassili.
Tarek Nefsi, le secteur touristique dépend toujours en Tunisie du balnéaire, alors qu'il y a d'autres créneaux qui devraient être exploités en Tunisie, l'écologie notamment. Alors comment se porte ce créneau en Tunisie, le tourisme vert ou le tourisme écologique?
Moi je dirais l'écotourisme est un secteur promoteur et il s'intègre dans ce qu'on appelle le tourisme équitable et qui touchera et qui touche actuellement, est en train de se développer, l'intérieur du pays, les régions défavorisées du pays et va être un moteur de développement et d'équilibre régional. Et donc, c'est quelque chose de complémentaire au tourisme balnéaire. La Tunisie, depuis les années 70, a démarré le tourisme balnéaire. Mais à côté de ce tourisme balnéaire, il y a d'autres formes de tourisme qui peuvent jouer donc un moteur de développement. Et l'écotourisme, ou le tourisme vert, le tourisme équitable, est un de ces moteurs-là. Et il est en pleine expansion. Et il y a une demande sur la Tunisie pour développer ce secteur-là. Et je dirais que pourquoi cette demande? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir en Tunisie. On connaît la Tunisie seulement, la Tunisie plage, la Tunisie Hammamet et Gerba, mais on ne connaît pas la Tunisie antilope, on ne connaît pas la Tunisie des gazelles. On a 4 espèces de gazelles différentes en Tunisie. On ne connaît pas la plus ancienne roche du continent africain qui existe en Tunisie, Jbel Tbaga du Mednine. On ne connaît pas la plus grande grotte d'Afrique du Nord qui existe dans la région de Kairouan, etc. Donc il y a des merveilles de la nature, mis à part les parcs nationaux bien sûr et les réserves, il y a des merveilles de la nature qui sont à découvrir et qu'on peut les voir à travers donc cette activité écotouristique. Et cette activité elle-même, elle est génératrice parce qu'elle touche aussi toute la chaîne de produits au niveau de la population locale, aussi bien pour des tables d'hôtes, pour des gîtes, pour des ateliers d'artisanat, etc. Et donc c'est un moteur de développement. Donc tout reste à faire. Heureusement que l'administration prend conscience maintenant de l'importance de ce moteur de développement qu'est l'écotourisme, aussi bien les associations. Et donc, c'est quelque chose d'assez intéressant qui a tout l'avenir devant elle, d'être complémentaire au tourisme balnéaire.
Donc, nous avons des acquis, la volonté politique y est aussi. Qu'est-ce qui manque alors pour que ce secteur se développe en Tunisie?
Il manque deux ingrédients essentiels dans notre plat. Je parle comme ça, comme cuisinier, il nous manque deux ingrédients essentiels. La volonté politique, elle existe. La volonté de l'administration aussi, les associations, elles existent. Il manque deux choses essentielles. La première, c'est le moyen humain, la formation. C'est la formation de personnel qui sache animer, présenter ses richesses naturelles et ses richesses de paysage et ses richesses de milieu naturel. Donc, une formation de guide spécialisé, de guide scientifique spécialisé avec ce qu'on appelle des fixeurs, c'est-à-dire des gens locaux qui savent où se trouve tel animal ou telle plante, etc. Ça, c'est un maillon qui manque. Le deuxième chose qui manque, ingrédient qui manque, c'est la promotion. En Europe, on parle toujours de la Tunisie Piyami, on parle de Djerba, on parle de Hammamet comme station balnéaire, mais on n'a jamais parlé que la Tunisie, c'est le seul endroit où on trouve en bon nombre des antilopes Adax et Oryx. On n'a jamais parlé qu'en Tunisie, ça se trouve le plus petit mammifère du monde, etc. Donc il faut mettre en valeur par l'Office du tourisme et ses administrations concernées la promotion de tourisme nature, de tourisme écolo, dans la vitrine du tourisme à l'échelle internationale pour la Tunisie.
La Tunisie, ce n'est pas que Djerba et les plages, c'est aussi l'intérieur, c'est aussi son histoire, c'est aussi sa faune et sa flore avec ses gazelles et ses antilopes. Et c'est vrai qu'il faut plus de promotion de cette Tunisie-là. Mais je crois que c'est pareil dans tous les pays, comme en Égypte, comme en Corse, comme ailleurs. Il y a les plages, mais il y a aussi l'intérieur.
Oui, il y a, mais ça a un double tranchant, moi je vois. Parce que le tourisme vert, comme en Égypte, par exemple, si on parle de la mer Rouge, on a la faune et la flore, les réserves naturelles. Et quand il y a les touristes qui viennent et les plongées, et donc on gâche un peu cette réserve. Et vraiment, de plus en plus, on interdit ces endroits-là parce qu'on trouve qu'on les perd.
Et oui, et sachons promouvoir, mais aussi protéger notre patrimoine naturel. Avant notre agenda culturel, on va écouter une chanson algérienne.
Viens là, mademoiselle, laisse-moi le temps de me présenter. Je suis sérieux et fidèle. Il me faut wahda qui m'ante ou qatli, je m'en fous de ta gentillesse. Machis-moi le fob, l'amour ou le hop. Mais si tu as une jolie caisse, khadma ou villa, wahda khtob. La sifham tir akriyo. Le tabail ma taoula, htid ma kelle, htafrim ya liyo. واجي نعلم لك كيف مرميت نساي الخرجة تعلي والركبة في الإيبيزا حبسي ما هادت مهبيل سقمي روحك يا العزيزة
أخذك من حلا مدرنا من فصة ولي راس صوتي ما مرفوع وشانو ديما علي أخذك من حلا مدرنا من فصة ولي راس صوتي ما مرفوع وشانو ديما علي Premier leçon, faut troller. T'chalsi l'amour kettiki. Sخانه ولا رقي كولي ما كلا نسمعك تشكي وبالك يطلي مزججة سينوك حلولك وانا نغير خلي بلاستك للحاجة والربحي شوية دعاوي الخير.
Comme chaque semaine, notre agenda culturel, et on commence par le Maroc.
Mawazine 2017, rythme du monde. La 16e édition accueille la légende vivante de la chanson française, Charles Aznavour, mais aussi l'immense Rod Stewart, le rappeur américain Wiz Khalifa, le français Booba, Badr Rami, et ses Mouachahat et ses Koudoud Halabeya, les Chandaleb. Une autre icône venue de la scène musicale grecque, El Fetreya Arvanitaki, sera présente, Mawazine, du 12 au 20 mai à Rabat.
La 34e édition du Salon de l'artisanat tunisien est prévue du 28 avril au 7 mai au Parc des expositions du CRAM. Grand rendez-vous des artisans et créateurs tunisiens en provenance de toute la Tunisie. Ce salon est une occasion pour exposer leurs dernières créations issues ou inspirées du patrimoine. Ce salon est aussi l'occasion pour sonder les dernières tendances et les nouveautés, aussi bien du côté des meubles, des accessoires, des fournitures de maison, du handmade et confectionné à la manière manière ancestrale que des vêtements, bijoux, articles de décoration. Donc l'édition 2017 aura pour slogan « Vivez l'artisanat ».
Le Caire, ville invincible et infernale, ville de tous les tourments et de toutes les merveilles. Dans son inextricable chaos apparent, elle cache ses secrets et ses moments de grâce pour qui sait l'écouter et être attentif à son rythme millénaire, qui cache ses jardins faits de beauté et de générosité. Dans le documentaire « Les mille et un Caire », le Suisse Jacques Siron, musicien d'origine, filme avec brio les gens simples qui peuplent cette ville aux mille mystères. Entouré des vestiges du passé, les glorieuses mosquées du Caire et l'incontournable pyramide sont les garantes d'une perpétuité qui nous protège malgré les cauchemars du présent. Mais sont-ils vraiment des cauchemars? Le regard d'amour de Jacques Siron, malgré la cruauté de certains moments, éclaire son film sur un Caire aux mille facettes. Un film qu'il faudrait voir pour s'immerger dans une mégalopole où l'humain a encore sans moi dire.
La communauté de Madrid accueille le 19e semaine du court-métrage avec pour pays invité cette année l'Italie. Jusqu'au 30 avril, les cinémas du Círculo de Bellas Artes de Madrid et nombre de salles de cinéma des villes et villages des régions organiseront des projections, des débats, des rencontres et des expositions.
Les 12, 13, 14 mai, la 5e édition de Aviera di Agravona. Cette année, au printemps, l'association organise sa traditionnelle foire agricole afin de promouvoir l'agriculture corse et de mettre en valeur l'élevage insulaire ainsi que les productions agricoles et artisanales locales.
Voilà, c'est la fin de ce Cantara. Il a été réalisé par Stéphane Casalonga. Il faut le rappeler, Dina, que Cantara est une coproduction.
Eh oui, de Radio Le Caire, Radio Extérieure d'Espagne, RCFM, chaîne Interaba, Algérien 3 et Radio Tunis, chaîne internationale.
Avant de nous quitter, n'oubliez pas de jeter un œil à notre page Facebook pour y retrouver nos reportages et pour écouter ou réécouter votre Cantara. Voilà, c'est fini. Merci à tous de l'avoir écouté. Au revoir Dina. Au revoir à tous. À la semaine prochaine.
Merci Thomas. Au revoir. À la semaine prochaine.